Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À bien y songer, je crois que l'Avent n'est pas seulement le temps préparatoire à la naissance du Sauveur dans la crèche de Bethléem. L'Avent a en fait des perspectives beaucoup plus larges. L'Avent doit être pour nous l'occasion d'une méditation sur tout le mystère de Dieu fait homme. Pas seulement sur le mystère de l'enfant Jésus, que nous aurons la joie d'accueillir dans 3 semaines, mais également sur le Messie qui vient nous sauver par tout son agir, par toute sa prédication, par sa passion, sa croix. Et notre regard pendant cet Avent doit également s'élargir au point que nous considérions jusqu'à la parousie du Christ. Vous voyez, c'est le mystère de Jésus, du début à la fin, qui doit être devant nos yeux pendant ce temps de l'Avent. Or, je crois que si nous voulons que notre méditation d'Avent soit vraiment profitable, si nous voulons pouvoir répondre à cette question que Jésus adresse chaque jour à chacun d'entre nous, « Pour vous, qui suis-je ?», il faut, pour ne pas verser dans le subjectivisme, pour ne pas arriver à un Jésus tel qu'on en a rêvé, et pas tel qu'il est en réalité, que nous nous mettions à l'école de certains grands contemplatifs, qui eux ont réussi à pénétrer vraiment le mystère de l'identité du Christ. Alors à la tête de tous ces contemplatifs, évidemment, je fais allusion en premier lieu à la bienheureuse Vierge Marie. Marie, c'est celle qui a porté Jésus dans son sein pendant 9 mois, cette intimité que personne n'aura jamais avec Jésus. Marie, c'est celle qui a accompagné le Christ pendant 30 ans de vie cachée à Nazareth, qui a eu la chance de le voir grandir et de le voir arriver à maturité dans son humanité. C'est celle qui l'a accompagné 3 ans et jusqu'au calvaire, qui a joui de sa prédication, qui a joui de tous ses exemples. Et Marie, c'est également celle qui, en vertu de son immaculée conception, avait une intelligence et un cœur parfaitement limpides, parfaitement droits, qui lui permirent, surélevés par la grâce, d'atteindre au cœur du mystère de Jésus. On comprend là qu'on a tout intérêt à recueillir sagement les enseignements de la Vierge Marie. Ces enseignements, on ne les trouve pas tant dans l'Écriture sainte, parce que Marie se tait très souvent dans l'Écriture, que dans la prière. Dans la contemplation de chacun des moments de la vie de Marie, soit qui nous sont encore une fois proposés par l'Écriture, soit qui nous sont suggérés par notre imagination. On peut se permettre cela, voyez. On imagine Marie avec le petit Jésus, Marie avec Jésus adolescent, Marie, voilà. Et de fait, on entre, parce que Marie ouvre largement ses bras, on entre dans une contemplation mariale des mystères de la vie du Christ. C'est ce que nous évoquions le jour du Saint-Rosaire, il n'y a pas si longtemps. Mais parce que la Vierge Marie, toute parfaite, risque parfois de nous impressionner ou de paraître très éloignée de notre condition, le bon Dieu a eu la bonne idée de mettre sur notre route d'autres guides, d'autres grands contemplatifs, qui, parce qu'ils sont moins parfaits que la Vierge Marie, nous sont plus accessibles. Enfin, plus accessibles, entendons-nous, puisque la figure que je voudrais évoquer, c'est celle de Jean-Baptiste. Alors bon, n'est pas Jean-Baptiste qui veut. Mais toujours est-il que Saint Jean-Baptiste est quand même plus proche de nous que la Vierge Marie, parce qu'il était pécheur et parce qu'il lui est arrivé de se tromper. Alors Saint Jean-Baptiste, je crois qu'il est d'autant plus important de recueillir son enseignement, de regarder son exemple, qu'il était dans une situation politique, religieuse, sociale, qui se rapproche largement de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Je crois qu'il est vraiment un maître pour notre temps. À l'époque, que se passait-il en Israël? Eh bien, pas grand-chose. Elle était en piteux état, le peuple élu avait perdu son autonomie, nous savons bien, sous une domination romaine, sous la houlette de rois plus ou moins légitimes, plus ou moins juifs du reste. Voilà, on était très loin des grandes heures de la royauté davidique ou de ce grand sage, il n'est pas resté jusqu'au bout, mais enfin il a quand même bien commencé, de Salomon. Voyez. Israël était, au temps de Jean-Baptiste, égaré au plan de la foi. Il faut quand même appeler les choses par leur nom. Ils s'étaient égarés au plan de la foi. Ils avaient, en large majorité, perdu la foi. Parce que le cœur de leur foi était désormais négligé. Le cœur de la foi, qu'est-ce que c'est? En Israël, évidemment dans l'Église en plénitude, mais déjà en Israël, je suis pécheur, Dieu est le tout autre, qui m'aime, qui est saint, et qui veut me sanctifier, je ne dois mon salut qu'à la bonté divine, qu'à ce don gratuit qu'on appelle la grâce. Ça, Israël avait déjà conscience de cela, et dès le début. Et tombé dans les pires turpitudes, un David, un Salomon ont eu la conviction que Dieu pourrait les sauver. Ils se sont prosternés devant Dieu, et de fait, ils ont été pardonnés, ils ont été sauvés. Ça, c'est le cœur, vous voyez, très simple de la religion israélite et de la nôtre. Or, au temps de Jean-Baptiste, on n'en était plus là du tout. Au temps de Jean-Baptiste, le salut s'acquérait à la force du poignet par l'application de 600 et quelques préceptes. Et une fois qu'on avait appliqué ces préceptes, on arrivait avec le petit papier devant Dieu et on exigeait de lui le salut. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Au plan de la foi, donc, Israël s'était perverti. Sous la houlette négligente ou trop humaine d'un sacerdoce qui, voilà, connaissait toutes sortes de turpitudes. On était au plan de l'espérance dans une situation là, carrément désespérante. Au plan de l'attente du Messie, en réalité, Israël s'était totalement fourvoyé. Est-ce que vraiment, lorsque Jésus est arrivé, le peuple élu était encore tendu vers la venue de ce Messie? Je ne crois pas. Je me recommande quand même de commentateurs autorisés, je ne sors pas ça du chapeau. Voyez que la situation en Israël au temps de Jean-Baptiste était absolument catastrophique, et au plan politique, et au plan religieux. Mais 2000 ans plus tard, mes chers amis, nous autres chrétiens, dans quelle situation nous trouvons-nous sur ces mêmes points? Au plan politique, j'entends large, au plan politique, l'Église jouit-elle toujours de la grandeur des temps passés? Je ne crois pas. Alors on peut trouver que c'est un bien, on peut trouver que c'est un mal, peu importe, je constate. L'Église essuie régulièrement les menaces, les persécutions d'un pouvoir temporel qui dépasse largement les bornes. On n'a rien à envier à la situation d'Israël aujourd'hui avec cette jungle qui enserre de plus en plus l'Église et qui voudrait soit se la servir, soit la détruire. Au plan de la foi, si l'on s'en tient aux sondages qui sont faits régulièrement auprès des chrétiens, je crois que la situation est assez catastrophique. Parce que chaque petit chrétien est tenté de faire son credo sur mesure et tantôt de rejeter, tantôt d'ajouter à la révélation. Au plan de l'espérance, et là ça nous regarde nous-mêmes au premier chef, autant je pense au plan de la foi que nous essayons de rester à peu près intègres, au plan de l'espérance, alors là, chacun d'entre nous doit regarder sa conscience. On voit que nous désespérons très souvent. Est-ce que nous sommes dans cette attente que l'Église veut de nous pendant le temps de l'Avent? Est-ce que nous avons le désir du ciel? Est-ce que nous avons l'espérance, mais une espérance qui nous fait trépigner, de la venue du Christ dans la parousie? Je ne crois pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder dans le contexte de l'époque comment saint Jean-Baptiste se comporte pour s'approcher du Seigneur Jésus, pour ancrer toute sa vie en lui, de sorte que nous, dans une situation similaire, en suivant son exemple, nous puissions nous en tirer. Saint Jean-Baptiste n'était pas là à se lamenter en permanence de l'état déliquescent d'Israël. C'est quelque chose qui est très frappant. Il n'était pas là à regretter le passé. Alors on le voit, c'est vrai, les cheveux hirsutes, les yeux, le regard perçant, enfin tout ce que vous pouvez découvrir dans les tableaux des primitifs italiens, de la Renaissance, des choses tout à fait étonnantes, un Jean-Baptiste loup des cèdres. Bon. Ce Jean-Baptiste-là, néanmoins, n'est pas en train en permanence de ratiociner comme un vieillard qui vieillit mal à propos du passé glorieux d'Israël. Saint Jean-Baptiste, c'est vraiment celui qui, j'emploie là une formule du père Marie-Dominique Philippe, je sais que certains ici aiment le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur de la communauté Saint-Jean, il avait cette formule que je trouve très belle. Saint Jean-Baptiste est venu fermer la maison de l'ancienne alliance. Alors c'est assez rugueux comme terme, c'est assez dur, mais la réalité est là. Saint Jean-Baptiste est le dernier des prophètes. Il a été appelé pour fermer la maison qu'Abraham avait eu la mission d'ouvrir. Ce n'est pas une mission très exaltante. Il y a là quelque chose d'un peu qui ressemble à l'échec. Mais saint Jean-Baptiste n'en a pourtant pas souffert au point de regretter, encore une fois, le passé glorieux de sa race. Il est là comme prophète tourné vers l'avenir. Et que fait-il? C'est là qu'il est important de regarder son exemple pour en tirer un enseignement. Comment s'approche-t-il du Christ? Il, sans aucune acidité, sans aucune nostalgie d'ancienne alliance, dont il est totalement, il s'approche du Christ et il n'est pas tout à fait convaincu, on le voit aujourd'hui, par la question qu'il pose au Christ, il doute de l'identité du Christ. Il est tellement de l'ancienne alliance qu'il attend un Messie glorieux. Et il peine à reconnaître dans la personne de Jésus celui qui est effectivement le Messie. Vous me direz, mais monsieur l'abbé, vous déraillez complètement. Quand il était dans le ventre de sa mère, dès la rencontre avec le Seigneur Jésus, il tressaillait dans le ventre de sa mère. Il savait très bien à qui il avait affaire. Oui, parfois non. Il a connu des épreuves, il a connu des turpitudes, et devant Jésus-Christ, parfois, il s'est mis à douter. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il s'en est sorti. Saint Jean-Baptiste a été sensible aux signes des temps. Il a été sensible à tous ces signes qui avaient été prédits dans l'Ancien Testament, qu'il devait connaître par cœur, et que le Seigneur Jésus rappelle ici. Les envoyés de Jean-Baptiste arrivent devant Jésus et lui demandent, de la part de leur maître, « Qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Que répond Jésus? « Voyez tous les signes qui s'accomplissent autour de moi. Les boîtes marchent, les aveugles recouvrent la vue, etc. » Tous ces signes-là, vous savez très bien que ça correspond à des prédictions de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie. Et alors, Saint Jean-Baptiste se rend aux arguments. Il se rend à la raison. Et nous verrons dans l'Évangile de la semaine prochaine que là, il reconnaît vraiment en Jésus le Messie grâce à ces signes messianiques qui lui ont parlé et qui ont fait pour lui preuve qu'il s'agissait bien, derrière les traits de cet homme de Nazareth, du Messie, du Fils de Dieu attendu depuis des siècles. Il se rend à ces arguments. Pourquoi Saint Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui a permis à Saint Jean-Baptiste de se rendre aussi rapidement, d'être aussi docile à l'interprétation des signes messianiques et de reconnaître dans le Seigneur Jésus le Messie lui-même? Mais c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Saint Jean-Baptiste est totalement dépourvu de tout. Il vit au désert, vêtu d'une peau de bête, il mange des sauterelles, il n'a évidemment ni femme ni enfant, et il passe sa vie dans le silence et dans la contemplation. J'applique maintenant à la situation actuelle ce comportement de Saint Jean-Baptiste. Si nous voulons approcher de Jésus, si nous voulons vraiment connaître quelque chose du mystère du Christ, et c'est ce que nous demande l'Église pendant l'Avent, si nous voulons à Noël avoir progressé dans cette connaissance de Jésus, nous devons faire comme Jean-Baptiste. Ne pas nous lamenter de la situation actuelle, ne pas regretter une quelconque époque passée glorieuse de l'Église, mais interpréter les signes des temps qui attestent de la divinité de Jésus et qui attestent de son retour prochain. Saint Jean-Baptiste était venu pour fermer la maison de l'Ancienne Alliance. Peut-être Dieu attend-il de nous que nous fermions la maison terrestre de la Nouvelle Alliance. Vous voyez, on a toute une série de signes, je ne joue pas là les catastrophistes et les millénaristes, mais on a toute une série de signes qui nous montrent que, vraiment, les douleurs de l'enfantement se font violents, et l'avènement du Christ dans la parousie, sans aucun doute, est pour bientôt. Nous n'avons jamais été aussi près de la venue du Fils de l'Homme, c'est ce que disait saint Paul dans l'Épître de la semaine dernière. Vous me direz que c'est une lapalissade, évidemment, le temps passant, on s'approche forcément du terme. Mais un certain nombre de signes sont à interpréter et à accueillir dans la docilité, par une vie de silence et par une vie de contemplation. Nous ne serons jamais ni le jour ni l'heure, mais nous devons en permanence être en veille et être disponible pour recevoir ces signes de l'avènement du Messie, et pour progresser dans la connaissance du Messie, et je ne sais pas si je me fais bien saisir. Voilà. Encore une fois, aucun catastrophisme, mais une nécessaire disponibilité à l'œuvre de Dieu dans le désert, comme Saint Jean-Baptiste, dans la contemplation et dans le détachement. Alors, il ne s'agit pas d'aller tous prendre notre peau de bête, de nous vêtir de je ne sais quoi, de prendre des sauterelles et d'aller vivre dans le champ d'à côté, parce que nous serions rapidement malheureux, mais au moins dans une conduite intérieure qui nous mène vers Noël, d'adopter un peu de ce comportement de Saint Jean-Baptiste. Docile aux signes des temps, nous serons capables de reconnaître le visage de Jésus là où il veut bien se présenter, et peut-être sa parousie pendant notre existence terrestre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Peut-être tout cela était-il un peu confus, mais je crois que le Saint-Esprit permet que toutes ces choses-là pénètrent petit à petit notre intelligence et surtout notre cœur pour que nous puissions approcher toujours davantage du Seigneur Jésus et discerner vraiment son identité telle qu'il est lui, et pas telle que nous aimerions qu'il soit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.